À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Conakry, 15h à Kigali. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité américaine. Le mur que le président Donald Trump veut ériger à la frontière avec le Mexique continue de faire la une aux États-Unis. Le ministre de la Défense, Jim Mattis, a discuté avec le chef de l'exécutif américain de la possibilité que le Pentagone finance ce projet, après le vœu exprimé en ce sens par le locataire de la Maison-Blanche. Le point avec Abdourahmane Dia.
Jim Mattis a rencontré le président, mais Dana White, porte-parole du Pentagone, n'a donné aucun détail. Interrogée sur la possibilité que le Pentagone débloque des fonds pour ce projet, elle est restée évasive, disant que la sécurité des Américains était d'une importance primordiale pour le secrétaire à la Défense. Jim Mattis a envoyé lundi aux employés du Pentagone un mémo sur le budget, leur demandant de se focaliser sur le caractère létal et abordable de chaque projet. Dimanche, le président Trump avait tweeté que grâce aux 700 milliards de dollars alloués à la défense en 2019 et aux 716 milliards pour 2020, l'armée américaine était de nouveau riche. Il avait ajouté que bâtir un grand mur frontalier alors que la drogue et les combattants ennemis inondent notre pays, c'est une question de défense nationale. Il a promulgué vendredi la loi de financement de l'État fédéral qui prévoit 1,6 milliard de dollars pour construire ou rénover des dizaines de kilomètres des clôtures, loin des 25 milliards qu'il avait réclamés pour la construction d'un mur le long de la frontière avec le Mexique.
Afrique maintenant, le président Donald Trump suspend les avantages commerciaux sur les vêtements importés du Rwanda. Ces avantages étaient accordés dans le cadre de l'AGOA, la législation américaine qui permet l'entrée en franchise de douane aux États-Unis de produits de certains pays africains. La suspension est une mesure de rétorsion aux barrières douanières sur les vêtements et chaussures recyclés américains imposées par le Rwanda, Eddie Sango.
Le président Trump estime qu'une suspension de ses avantages plutôt qu'une sortie du Rwanda de l'AGOA pourrait permettre de poursuivre les discussions dans le but de restaurer l'accès au marché rwandais aux produits américains, selon un communiqué du représentant américain du commerce. La décision n'exclut pas le Rwanda de l'AGOA. L'administration Trump a décidé de mener une enquête sur le Rwanda, mais également sur la Tanzanie et l'Ouganda en mars 2017, à la demande de l'Association américaine des textiles d'occasion et recyclés. L'association dénonçait l'imposition des droits de douane sur les exportations américaines de vêtements et chaussures d'occasion. Le Rwanda a interdit toute importation d'habits usagés sur son sol. La Tanzanie et l'Ouganda ne sont pas frappés par la décision parce qu'ils ont pris des mesures pour éliminer les droits de douane prohibitifs.
En RDC, réunion en congrès ce vendredi et samedi du parti historique d'opposition UDPS, Union pour la démocratie et progrès social. Objectif, désigner son nouveau président et potentiel candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre dans le pays. Parmi les quatre postulants, Félix Tshisekedi, fils du fondateur du parti, donné favori pour succéder à son père, l'ex-candidat à la présidentielle de 2011, décédé à Bruxelles le 1er février 2017. Félix Tshisekedi est une des deux figures les plus populaires de l'opposition au régime du président Joseph Kabila, avec l'opposant en exil Moïse Katumbi. L'opposition congolaise remporterait l'élection présidentielle face au camp du président sortant Joseph Kabila si le scrutin avait lieu ces jours-ci. C'est ce qui ressort de plusieurs sondages publiés ce vendredi par des experts étrangers à 9 mois de l'échéance électorale du 23 décembre. Au total, 66% des Congolais voteraient pour des candidats d'opposition à l'élection présidentielle si elle avait lieu dimanche prochain. La marge d'erreur, plus ou moins 3%. Par ailleurs, l'Ituri dans l'est du pays attend le président Joseph Kabila qui doit annoncer les modalités d'une conférence pour la paix dans cette province où les agriculteurs hindous et les éleveurs Emma s'affrontent. Depuis début février, des tueries ont fait plus de 120 morts d'après un décompte de l'AFP, principalement des Emma dans le territoire de Djougou qui ont fui par dizaines de milliers en Ouganda voisin ou ailleurs en Ituri, notamment son chef-lieu Bunia. Cameroun, appel de l'avocat camerounais Emmanuel Sim au président Paul Biya pour lui demander d'ordonner l'arrêt des poursuites judiciaires contre les leaders de la contestation anglophone. Une requête qui fait suite au nouveau report jeudi du procès à Yaoundé de plusieurs d'entre eux, dont l'animateur Mancho Bibixi. Plus de précision avec Irénée Herman Ungbo.
L'audience de 8 accusés dont l'un des leaders de la contestation anglophone mentionne BBC a été ajournée au 13 avril. Dans une affaire parallèle jugée hier au tribunal militaire de Yaoundé, un autre anglophone a été déclaré coupable d'apologie de terrorisme, sécession et hostilité contre la patrie. Sa peine sera prononcée le même jour, annoncée pour l'ouverture du procès de Mancho BBC. Maître Emmanuel Sim, avocat des accusés, invite cependant le président Paul Biya à intervenir pour ordonner l'arrêt des poursuites judiciaires engagées contre les anglophones. Maître Sim précise que la crise anglophone est politique et ne peut avoir qu'une solution politique. Selon lui, c'est la seule façon de ramener la paix dans les deux régions anglophones. Rappelons qu'en août 2017, le président Biya avait déjà décrété l'arrêt des poursuites contre certains leaders anglophones arrêtés dans le cadre de la contestation à la fin 2016.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant. Au Sénégal, le maire de Dakar, Khalifa Sall, a été condamné ce vendredi à 5 ans de prison pour escroquerie portant sur des fonds publics et faux. Décision qui l'écarte de la course à l'élection présidentielle sénégalaise de février 2019. Le parquet avait requis le 16 février 7 ans d'emprisonnement à son encontre, alors que la défense réclamait la relaxe pure et simple pour Khalifa Sall et ses 7 collaborateurs. Au Mali, un incendie d'une grande intensité a détruit hier un grand marché à Nara, localité du nord de la province de Koulikoro, proche de la frontière mauritanienne. La cause du sinistre, un camion-citerne qui ravitaillait une station d'essence située en plein cœur du marché, a pris feu. On ne déplore pas de pertes en vie humaine, mais les dégâts matériels sont considérables. Modibo Keïta, animateur à radio Danier FM de Nara, nous en dit plus.
Il y a une station d'essence au milieu du marché même de Nara. Et cette station aussi est entourée par des magasins, des boutiques de vente, également des cyber, ainsi que des salons de coiffure. Le marché en totalité a été réduit en cendres, ainsi que des boutiques de vente de pièces, des garages de réparation, des motos. Il y avait aussi des véhicules D107, ainsi que des véhicules 4x4 qui ont été totalement réduits en cendres. Il y a une famille aussi qui est à quelques 40 mètres du marché, qui aussi a été totalement réduit en cendres.
C'est pas quand même un incendie criminel.
Non. C'est pas un incendie criminel. C'est le camion citerne qui était là pour le ravitaillement. D'habitude, ils le font dans la nuit. On a constaté que le ravitaillement a été effectué en pleine journée. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont dit que c'est le feu là qui a occasionné l'incendie. Certains aussi disent que c'est le bouchon du camion citerne qui a touché le ciment et qui a déclenché le feu. Chacun est en train de dire sa version.
Des propos recueillis par Modibo Dembélé. Sierra Leone, la finale de la présidentielle, c'est demain samedi. En face à face pour ce second tour, le candidat du parti APC au pouvoir, Samora Camara, et celui du principal parti d'opposition, Julius Maada Bio, arrivé en tête au premier tour avec 43,3% des voix. 3 100 000 électeurs sont attendus dans les bureaux de vote pour choisir le successeur du président Ernest Bai Koroma, qui ne peut pas se représenter après 2 mandats. Les premiers résultats sont attendus la semaine prochaine. En Libye, au moins 8 personnes, dont des civils, ont été tuées et 8 autres blessées dans un attentat suicide hier soir contre un barrage de sécurité dans l'est du pays. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Un kamikaze a fait exploser son véhicule à un barrage tenu par des forces loyales au maréchal Haftar à l'entrée est de la ville d'Ajdabia à l'est de Tripoli. C'est ce qu'a indiqué le général Fawzi Al-Mansouri, un haut responsable local de sécurité. Selon lui, il y a des civils parmi les morts et les blessés. Les victimes civiles étaient de passage au moment de l'attaque qui n'a pas été revendiquée jusqu'ici, a-t-il fait savoir, ajoutant aussi que le véhicule transportait une lourde charge explosive. Il s'agit de la deuxième attaque du genre en moins d'un mois dans cette région. Un premier attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique avait fait 3 blessés le 9 mars au sud d'Ajdabia. Malgré la perte du fief de Sirte dans le nord du pays, en décembre 2016, les djihadistes restent actifs, notamment dans le centre et le sud de la Libye, pays déchiré par des luttes de pouvoir et miné par une insécurité chronique depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011.
Conflit en Syrie maintenant, l'armée russe a annoncé ce vendredi à Moscou être parvenue à un accord pour l'évacuation de la ville de Douma, la dernière poche rebelle dans la Ghouta orientale aux portes de la capitale Damas, ce qui signifierait la chute de l'enclave. Mais l'information a été aussitôt démentie par les insurgés de Jaïch al-Islam, le groupe occupant le secteur. Un tel accord marquerait la chute de la Ghouta et la pire défaite pour les rebelles dans la guerre en Syrie. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.